après. Mais je serai là de toute façon après aussi, donc 10h. Ouais. Mais je crois qu'il y a, il y a ce qu'il faut, il me semble. C'est plus tout à l'heure pour la mise en place de la salle, mais il me semble que Claire-Lise voulait le faire. Donc. Trois tables. Trois tables si jamais, ouais, pas plus. Ouais. 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 Ouais, je disais à Elisabeth, 31. C'est pas si facile de trouver, hein. Et même au niveau frais actuellement. Alors la semaine prochaine, c'est un échange de chair, donc c'est un peu plus léger pour moi. Mais j'ai la prédication à Colonie. Mais on reprend quelque chose dans ces cas-là. Enfin, quoique là, ils m'ont demandé de me mettre dans une série. Donc non, je vais travailler une série, ouais. Donc, ouais.
Thank you. bonjour.
Merci beaucoup. Bonjour. Au nom de toute l'équipe de préparation de ce matin, je vous souhaite la bienvenue, une chaleureuse bienvenue dans ces locaux. Bienvenue aux enfants qui sont là, aux jeunes enfants, aux moyens enfants et à ceux qui sont restés enfants dans le cœur. Bienvenue à vous qui êtes en ligne, qui participez au culte via les ondes d'Internet. Et bienvenue à vous qui êtes ici présents. L'an dernier, j'ai eu le privilège de partir 4 mois en congé sabbatique avec mes enfants et mon mari. 4 mois de pause en famille. Et puis nous avons voyagé au Maroc en camping-car. Et ce qui m'a frappée, c'est que les Marocains nous ont toujours dit, et ils disent toujours, soyez les bienvenus. Ici, vous êtes chez vous. Et puis, vous offrent le thé et le repas, s'ils le peuvent. Mais souvent, c'est nous qui refusions parce qu'on avait d'autres personnes à voir. Mais toujours un accueil. Alors aujourd'hui, il y aura un repas après ce culte. Donc, soyez les bienvenus, restez. Même si vous n'avez rien à porter, vous êtes chez vous ici. Dans la Bible, il est dit que nous sommes tous appelés enfants de Dieu, qu'il nous aime et qu'il nous accueille, avec un amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Et puis cet amour n'est pas distribué selon nos actes ou nos circonstances, ni notre âge ou nos pensées, mais il est là, offert pour nous. Alors je vous propose qu'avant d'aller de l'avant dans cette matinée, nous puissions nous arrêter quelques instants pour mesurer un peu cet amour. Je prie. Seigneur, merci parce que tu m'appelles, tu nous appelles tes enfants. Merci parce qu'aujourd'hui nous avons l'immense privilège de nous retrouver dans ces lieux pour te louer, t'adorer et pour faire une pause dans notre quotidien. Mais aussi pour reprendre des forces, pour aller de l'avant. Merci parce que tu nous accueilles tels que nous sommes, pas besoin de faire semblant. Tu prends notre vulnérabilité entre tes mains et tu nous aimes tels que nous sommes. Seigneur, permets que nous puissions ralentir, prendre le temps de goûter ta présence ce matin. Et permets que chacun d'entre nous, petit ou grand, nous puissions repartir avec un encouragement, une réflexion qui nous fait avancer plus proche de toi encore. Amen. Alors ce matin, Philippe va aborder un thème sur le nom de Jésus, un nom qui divise, un nom qui sauve. Et puis en préparant ce culte, je me suis posé la question du nom, en fait. C'est vrai qu'on en a tous un, parfois deux, trois, quatre, selon nos origines. Et puis quand on est futur parent, on a la lourde tâche de choisir un nom, et le privilège aussi. Un nom qui sonne bien, un nom qui soit un nom qu'on puisse prononcer en toutes circonstances, avec amour, mais aussi avec fermeté. Et puis, je me suis questionnée sur les noms que nous connaissons autour de nous. Alors, c'est vrai que si je dis Johnny Hallyday, ben, certains d'entre nous réagiront en disant, ben voilà, je sais qui c'est, alors que d'autres, pas du tout. Et si je dis Flash McQueen, ben certains autres souriront, les parents, les enfants, tandis que des personnes plus âgées se questionneront, mais qui est ce Flash McQueen ? Et je voulais vous lancer un défi aujourd'hui. On va prendre un tout petit instant. Je vous invite à réfléchir à quelqu'un qui vous a marqué dans votre vie, le nom de quelqu'un. Et puis, je vous laisse imaginer un nom. Quelqu'un qui peut-être vous a sauvé d'une situation, qui vous a tendu la main, bref, qui a fait que votre vie est marquée. Elle reste, ce nom reste en vous. C'est bon ? Vous avez trouvé ? Ok. Alors maintenant, je vous invite à vous tourner vers votre voisin ou votre voisine, à vous présenter si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis à partager ce nom et juste dire en deux mots ben pourquoi ce nom est venu en tête. Alors, avec toute la réserve que vous pouvez avoir, pas obligé de tout raconter. Ben voilà, je vous donne quelques instants pour partager entre vous le nom que vous avez trouvé. Ça me fait vraiment plaisir de voir les échanges. Et je vous invite à ne pas hésiter à poursuivre ces échanges lors de l'après-culte et le repas qui va suivre. Là, je viens d'avoir un échange avec David et Anne-Claude et j'ai été enrichie. Et puis, voilà, sur ces gens, ces noms qui nous ont marqués. Alors, tout à l'heure, on va voir avec Philippe deux personnes qui ont été marquées par le nom de Jésus et qui ne peuvent pas s'empêcher de le proclamer. Tellement au point qu'au fait, ils n'arrivent pas à vivre sans lui. Voilà. Alors, j'invite l'équipe Louange à poursuivre ce moment avec nous.
Voilà. Merci. Pour arriver à ce moment de nom, peut-être c'est bien qu'ensemble on puisse louer ce nom du Seigneur, qu'on puisse prendre un temps pour se tourner vers lui, pour l'adorer. Et la série qu'on va interpréter maintenant, elle est rythmée comme ça. Il y a un premier temps de célébration, de joie, qu'on est invité à louer et célébrer le Seigneur. Ça veut dire quoi, célébrer? Quand on parle de célébration, ça vous fait penser à quoi? Les enfants? Une célébration, c'est quoi? T'as une idée? C'est comme si on loue. Ouais. Moi, je pense à un mariage. Vous avez déjà été à un mariage?
Oui.
Ouais. Tout le monde s'habille bien, c'est beau, c'est vraiment... Pour moi, ça, c'est... Quand on parle célébration, tu vois, un mariage. Mais aussi les 80 ans du grand-père. Ou bien la victoire, hein, de notre équipe favorite de volley-ball. Là, cette semaine, les féminines, elles ont bien gagné. Voilà. Eh bien, nous, on veut célébrer Jésus. Comme dans une grande fête, parce que Jésus, il le mérite, quoi, voilà. Mais il ne suffit pas de le dire, il suffit de le vivre. Mais il a tout donné pour nous. Il est venu sur terre, il a connu la faim, il a connu la tristesse. Mais surtout, il a vaincu sur toutes les choses, sur toutes ces choses, et nous fait cadeau de cette victoire. Voilà. Le deuxième chant, c'est un chant de contemplation. Jésus, qui est la lumière du monde, eh bien, il peut même nous éblouir. Et ça nous amènera au troisième chant, qui est un chant d'adoration, qui dit « Je te donne ce que j'ai de meilleur ». Et c'est vrai que, j'ai relu encore ce texte cette semaine, Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, il a vu plein de chenilles devant le temple et puis il a dit, mais comment on va aller jusqu'au temple? Là, il y a des marchands partout, etc. Il a tout renversé. Il a dit, maintenant, concentrez-vous pas sur ces histoires d'offrandes et tout ça. Bien sûr, c'est dans la Bible, les offrandes, les pigeons, les trucs, etc. Enfin, c'est, voilà. Il a dit, non, maintenant, ce qu'on veut, c'est rejoindre Dieu dans le temple. Et les fidèles ont pu comme ça s'approcher du temple. Alors, je vous invite peut-être à que chacun puisse déblayer l'entrée du temple dans nos cœurs et qu'on puisse faire table rase pour nous approcher de lui parce qu'il nous invite. Et c'est vrai qu'il veut prendre tous nos soucis, on peut les déposer à lui. Voilà.
Ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel.
Seigneur, je célèbre ton santé.
Et ta bonté.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu viens pour nous sauver.
Pour nous sauver.
Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel.
Seigneur, je célèbre ta bonté.
Oui, ta bonté.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie tu viens pour nous sauver.
Oui, nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix.
Payer pour moi.
De la croix jusqu'au tombeau.
Et du tombeau jusqu'au ciel.
Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Thank you.
toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de mieux. ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom.
Je viens te dire, Seigneur,
si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom.
Voilà. J'invite les enfants, le groupe du Caté, et puis voilà, que vous puissiez rejoindre vos groupes maintenant. C'est le temps. Merci aux moniteurs qui sont présents chaque dimanche. Soyez bénis.
Bonjour à chacun, à chacune. Merci. Vous êtes là ! Ouais ! Lorsque Heidi et moi, on a choisi les prénoms de nos enfants, Laura et Elliot, nous avons été guidés en priorité par des sonorités qui nous plaisaient. Des sonorités qui nous plaisaient. Et puis, des prénoms qui soient adaptés aux deux langues de notre famille. Il fallait que ça se prononce en français et en anglais. D'autres parents prêtent plus d'attention au sens des prénoms. Parfois, en rapport même avec leur foi dans le Dieu de la Bible. Joseph et Marie, eux, n'ont pas eu à réfléchir au prénom de leur fils premier-né, Jésus. Joseph, ils s'entendirent par un ange, c'est la première slide, Raymond. Matthieu 1, verset 21. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu a d'emblée voulu associer le nom de Jésus au salut du monde. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus. Ce nom n'en suscite pas moins la controverse. Hier comme aujourd'hui. Et c'est ce que je vous invite à méditer ce matin en deux temps, autour du texte d'Actes 4, 1 à 22, dont nous allons écouter maintenant la lecture.
Actes 4, versets 1 à 22. Pierre et Jean parlaient encore au peuple. Quand arrivèrent les prêtres, le chef des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés de voir les deux apôtres apporter leur enseignement au peuple et annoncer en Jésus que les morts peuvent ressusciter. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison pour la nuit, car il était déjà tard. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, beaucoup crurent, et le nombre de croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Le lendemain, les dirigeants, les anciens et les spécialistes des Écritures s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Hanné, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et anciens, on nous interroge aujourd'hui à propos du bien fait à un infirme, on nous demande comment cet homme a été guéri. Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez sacrifié et que Dieu a ressuscité des morts. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde, il n'a été donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Les membres du conseil étaient très étonnés, car ils voyaient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendaient compte en même temps que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Mais ils voyaient aussi celui qui avait été guéri, qui se tenait auprès d'eux, et ils ne trouvaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent alors de sortir de la salle du conseil, et se mirent à discuter entre eux. Ils se disaient, « Que ferons-nous de ces gens ? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce signe extraordinaire a été réalisé par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que la nouvelle de cette affaire se répande davantage parmi le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à qui que ce soit du nom de Jésus. » ils les rappelèrent. Elles leur interdirent catégoriquement de prononcer ou d'enseigner le nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Les membres du conseil les menacèrent à nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. Celui qui avait été miraculeusement guéri était en effet âgé de plus de 40 ans.
Acte 4, 1 à 22. Et jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On vient d'assister au chapitre précédent à la guérison miraculeuse d'un homme paralysé de naissance, homme que nous retrouvons tout à la fin de la lecture que nous venons d'entendre. Guérison miraculeuse. Pierre a relevé cet homme en lui tendant la main et en lui disant « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » La foule qui assiste à ce miracle est stupéfaite. On le serait à moins. L'homme guéri est, et ce n'est pas très surprenant, rempli de joie. Ben ouais, il vient d'être mis debout. On aurait pu penser que ce miracle ferait l'unanimité. C'est quand même assez génial. Un homme empêché, un homme handicapé, est guéri dans le nom de Jésus, se lève et peut marcher. Ça devrait susciter une joie de dingue. Et pourtant, cet événement-là fait grandir l'hostilité contre les disciples de Jésus. Et voilà que les responsables du peuple envoie des hommes pour arrêter Pierre et Jean. Les versets 1 à 3. Mais, dans le fond, ce n'est pas le miracle lui-même qui déclenche la colère de ces responsables religieux. Ce qui déclenche la colère des responsables religieux, ce qui déclenche l'hostilité, c'est le message que Pierre a proclamé dans la foulée, c'est-à-dire que Jésus est le Sauveur dont tous et toutes ont besoin. Et quand on y regarde d'un peu plus près, il y a dans ce message, Jésus est Sauveur, une raison encore plus précise qui déclenche l'hostilité. Les hommes qui viennent arrêter Pierre et Jean sont irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncent que, puisque Jésus est ressuscité, les morts ressusciteront aussi. C'est ça qui déclenche l'hostilité, la résurrection. Pourquoi ce point précis pose un problème ? Au sein du judaïsme au 1er siècle, il y a une école de pensée très influente. Cette école de pensée influente, qu'on retrouve ailleurs dans les évangiles en particulier, c'est les pharisiens. Écritures à l'appui, les pharisiens affirment qu'un jour les morts vont ressusciter. Et sur ce point-là, malgré quantité d'autres oppositions, Jésus était tout à fait en phase avec les pharisiens. Et puis en même temps, il y avait comme souvent, parce que les sociétés sont vite binaires, comme souvent, il y avait une autre école de pensée, qui était, elle, constituée de l'élite du peuple, de l'élite du pays, la crème de la crème, Et cette crème de la crème niait la résurrection. Cette crème de la crème, on la retrouve dans notre texte sous le nom les Sadducéens. Donc on a d'un côté les pharisiens qui croient à la résurrection, comme Jésus, et puis les Sadducéens, l'élite du pays, qui, elle, n'y croient pas. Alors, il faut nuancer, hein, les Sadducéens ne niaient pas toute notion d'au-delà, mais niaient l'idée même de la résurrection des corps. Et ce sont eux qui apparaissent au verset 1 de notre texte. Non seulement Jésus est à leurs yeux un faux Messie, mais en plus, ces apôtres enseignent un point de doctrine qui est défendu par leurs adversaires, les pharisiens. Chacun a donc des raisons pour s'opposer à Jésus et à ses disciples. Parce que Jésus, c'est un nom qui divise. Parce que Jésus ne rentrait pas dans les cases de l'époque. Il ne faisait pas écho à l'élite du pays. Et je me pose la question, si nous aujourd'hui on peut facilement nous ranger dans les préférences de notre époque, ou pour être plus précis et rester dans le contexte, dans les préférences de notre religion. Parce que là, ce n'est pas seulement la société civile, c'est la société religieuse qui a des préférences, des convictions, des chevaux de bataille. Est-ce que nous, chrétiens évangéliques, on va nous ranger dans les cases de la pensée dominante, y compris dans le cadre de notre foi évangélique? Ou est-ce que nous allons refléter le caractère inclassable de Jésus? Jésus qui est clivant parfois, Jésus qui est renversant souvent. Est-ce qu'on y fait écho, nous? Chez nous, évangéliques, nous ne nous référons généralement pas trop au pape. On en a d'autres, mais celui-là, le pape catholique, on s'y réfère pas trop. Et puis, il y a une chose qui m'a frappé au moment de sa visite à Marseille, en septembre dernier. En amont de l'événement, une certaine élite s'opposait à son accueil. Et cette élite s'opposait à son accueil au nom de la laïcité. France est un pays laïque. Comment se fait-il que le pape vienne et que le président en exercice puisse même participer à la messe à Marseille? Et puis d'autres, qui se réjouissaient de la venue du pape, invoquaient au contraire les racines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église. C'est normal que le pape vienne. Donc on avait ces deux élites qui s'opposaient. Ceux qui, au nom de la laïcité, disaient « c'est bon le pape, on n'en a rien à carrer ». Et puis d'autres qui disaient « Ah mais non, il vient en France, la fille aînée de l'Église, nous avons des racines chrétiennes, judéo-chrétiennes, accueillons-le, écoutons-le ». Et après cette visite, pendant laquelle le pape a parlé avec des migrants, beaucoup des premiers qui ne voulaient pas de la venue du pape l'ont applaudi, tandis que beaucoup des seconds qui se réjouissaient qu'ils viennent en France ont finalement plutôt pris le relais de la critique. Ce que je retiens de ça, c'est que certains s'opposent à la foi chrétienne parce qu'elle leur semble rétrograde, dépassée, en particulier sur toutes les grandes questions sociétales qui traversent notre civilisation. Et d'autres s'opposent à la foi chrétienne parce qu'elle met à l'honneur l'accueil, la compassion et la grâce plutôt que l'esprit de revanche, d'ostracisme et de puissance. D'autres s'opposent à la foi chrétienne parce qu'elle dépasse, parce qu'elle relativise les barrières nationales, les barrières culturelles, les barrières morales, éthiques qui redeviennent très à la mode ces temps-ci. Très à la mode. La foi chrétienne, mes amis, elle ne rentre pas bien dans les cases. Jésus a d'un côté dénoncé l'adultère et de l'autre, il a dénoncé l'exploitation, la cupidité, le mensonge, la violence, l'égoïsme. Et parfois, nous ne retenons que l'adultère. Jésus n'a pas dit un mot, pas un, sur des questions fondamentales qui nous interrogent aujourd'hui, en particulier en matière d'éthique sexuelle. Il n'a pas dit un mot, mais il n'a eu de cesse de dénoncer les mauvaises richesses, l'égoïsme, l'entre-soi, la religion, sur des sujets éthiques qui semblent poser problème aujourd'hui, Jésus n'a pas dit un mot. Et sur d'autres sur lesquels nous n'entendons pas souvent les évangéliques, pas assez les évangéliques, Jésus a eu des paroles massives. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, Jésus me donne à lire et à méditer ces quelques mots. « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis que. » Jésus interroge la parole inspirée de Dieu et il la redéfinit. Et il est la clé de lecture de la parole de Dieu. Ça me frappe que le Christ, en qui se résume tout l'Évangile, montre qu'il peut y avoir des mauvaises interprétations, des mauvaises intentions, qu'il peut y avoir des théologies réductrices, des théologies toxiques, destructrices, des pratiques religieuses, sans amour, offensantes à l'égard des gens, des pratiques qui ont besoin aujourd'hui d'être repensées, réinterprétées, réimaginées pour être en accord avec lui, le Christ. Sinon, nous renions la force de l'Évangile. L'Évangile, c'est le Christ. Alors Jésus a scandalisé les chefs religieux de son temps. Il a été l'ami des pécheurs, l'ami des exclus, l'ami des échecs moraux. Mais l'Église qui porte son nom a rarement été reconnue comme un refuge pour ces gens. Une église qui hésite à faire grâce et à accueillir radicalement s'éloigne de ce qui fait sa profondeur, sa vérité et son attractivité. Jésus y gêne régulièrement tout le monde, y compris bien souvent les chrétiens engagés et les systèmes religieux, y compris nos systèmes religieux à nous. Parce que le nom de Jésus, la personne de Jésus, le message de Jésus, ça divise. Ça divise. Et c'est ce nom que Pierre, Jean, les autres apôtres vont proclamer sans relâche, malgré une opposition croissante, malgré une opposition violente. Et une chose me frappe dans notre texte. C'est que les gens qui viennent arrêter Pierre et Jean, les gens qui viennent les interroger, ce sont des gens bien. C'est des gars bien. Ce sont des notables, verset 1, verset 6, des notables. Des gens instruits, des gens qui probablement étaient tout à fait courtois, respectables, qui aimaient leurs enfants, des gens qui avaient le souci du bien de leur peuple, de leur nation, de leur ville. Mais voilà, il y a là un clivage indépassable entre eux, ces gens bien, et les disciples de Jésus. La clé ici, c'est la réponse que chacun d'entre nous apporte à la question « Qui est Jésus ?» Ça, c'est la clé. Qui est Jésus ? Pierre proclame avec force, versets 10 à 12, « Eh bien, sachez-le, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, si cet homme se présente devant vous en bonne santé, c'est par le pouvoir du nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde il n'a été donné aux êtres humains, quelqu'un d'autre, par qui nous pourrions être sauvés. Le nom de Jésus. Qui est Jésus ? La plupart des adversaires de Jésus, que ce soit ici à Jérusalem ou plus tard parmi les non-juifs, c'étaient des gens bien aux yeux des hommes. Mais quand Pierre leur affirme que Jésus est Messie et Seigneur, comme il ne cesse de le faire depuis son tout premier message d'acte 2, eh bien il y a pour ces gens bien un obstacle infranchissable. Il faut se poser la question. Si la clé de lecture, de compréhension de l'existence, si le sens de la vie, de la foi, si toutes ces choses-là ne se trouveraient pas dans la seule personne de Jésus de Nazareth. Tout est concentré en lui, en Jésus. Et où Jésus est vraiment ce qu'il dit, auquel cas son message doit être pris au sérieux, si Jésus est ce qu'il dit, son message doit être pris au sérieux, ou c'est un usurpateur, et alors rien n'est important. Mais il n'y a pas de voie médiane, ça n'existe pas, il n'y a pas un truc au milieu qui serait un peu gris, un peu « ouais, Jésus c'est sérieux, mais en même temps ». Non, c'est soit il est vraiment ce qu'il dit, auquel cas son message doit être pris au sérieux et à fond, soit c'est un usurpateur et vous perdez votre temps ici ce matin. Et il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. Pour ces notables qui arrêtaient Pierre et Jean, la crédibilité de Jésus n'était pas dans le champ des possibles. Quoi qu'il arrive, la crédibilité de Jésus n'était pas dans le champ des possibles. Même avec les meilleurs arguments, même avec la meilleure théologie, même face à un miracle, même face à l'extraordinaire, Jésus n'était pas crédible. De même, pour la plupart de nos contemporains, affirmer que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'il accueille radicalement, ce n'est a priori pas envisageable. Pourtant, dans notre texte, un changement total de perspective est tout à fait possible. Parmi ceux qui avaient entendu la parole de Dieu, beaucoup crurent et le nombre des croyants s'éleva à 5000 personnes environ. Ça ne vous fait pas rêver ? Regardez le renouvellement de nos églises, la nôtre et les autres. Pourquoi ça ne se renouvelle pas ? Pourquoi on a tellement de peine à lever une nouvelle génération ? N'allez pas me faire croire que c'est qu'une question de style musical ou de durée des cultes. C'est important d'ailleurs avec le conseil, on y travaille sérieusement. Mais le cœur du cœur qui fait que nous ne nous renouvelons pas, c'est que nous n'incarnons pas assez Jésus. La religion, oui, c'est bon. L'éthique, les grands principes doctrinaux, on les connaît par cœur et on a vite fait de les dire. Mais Jésus, Jésus qui accueille, qui écoute, qui sauve, qui relève, qui tranche parmi les religieux, mais qui accueille à bras ouverts les pécheurs. Est-ce que nous l'incarnons assez ? Parce que si nous ne l'incarnons pas, ben les pécheurs ne vont pas venir. Et puis ils ne pourront pas être sauvés comme nous l'avons été. Et l'Église mourra avec ses grands principes, avec ses grandes doctrines, avec sa capacité de force théologique. Elle va crever. Si nous n'incarnons pas Jésus, l'Église va mourir. Donc, face au discours de Pierre, les réactions sont polarisées. Certains croient et ils changent de perspective, ils placent leur foi en Jésus, ils reconnaissent qu'ils ont besoin de lui. Et puis il y a ceux qui s'opposent totalement à cette proclamation et qui vont même jusqu'à prétendre l'interdire de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais pour les apôtres, l'enjeu est tel qu'il est impossible de se taire même face aux menaces. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu ? Des grands synodes ? Pas trop. qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu ? 3 ans. Ils ont vu Jésus. Jésus en action, Jésus en parole, Jésus dans l'intimité, Jésus avec eux, Jésus trahi, Jésus arrêté, Jésus crucifié et Jésus ressuscité. C'est ça qu'ils ont vu. C'est tout ce qu'il y a au cœur de leur proclamation. Jésus. L'opposition à Jésus dans notre contexte, en tout cas en Suisse, elle est beaucoup plus feutrée que ce qui se passait là à Jérusalem ou ce qui se passe au Soudan ou en Corée du Nord. Chez nous, tant que tu gardes ta foi pour toi, tant que ça gêne personne, ben crois ce que tu veux, vis comme tu veux, chacun est libre. Mais à un moment donné, il y a une neutralité qui n'est plus possible. Jésus est Seigneur et Sauveur, où il n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est ce que Pierre martèle dans son discours. Et pour nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, toute notre foi est là, Jésus. Je sais que nous avons parfois l'impression, même inconsciemment, que nous devrions en quelque sorte être témoins de nous-mêmes. Être témoins des valeurs qui nous traversent, nous évangéliques de Suisse. Il faudra alors convaincre nos contemporains qu'on peut en même temps être quelqu'un de très cool, sympa, intéressant, tout en croyant à Jésus, que nos vies ont été bouleversées dans tous les domaines, même si ça ne se voit pas trop. Puis en un sens, il y a du vrai dans tout cela. Mais ce n'est pas nous qui devrions être au centre de notre témoignage. Celui qui doit être au centre de notre témoignage, c'est Jésus, Sauveur et Seigneur. Nous ne sommes pas, nous, témoins d'une idéologie, aussi évangélique soit-elle. Nous ne sommes pas témoins d'une éthique, nous ne sommes pas témoins d'une morale, nous ne sommes pas témoins d'une tradition religieuse. Nous sommes témoins d'une personne. Et ça, ça change tout. Il y a là quelque chose, je trouve, d'apaisant, voire de libérateur. Ça nous dit que nous sommes incapables de sauver qui que ce soit, que c'est Jésus seul qui sauve le dernier des pécheurs. Le cœur de notre foi est de connaître Jésus et de marcher avec lui, pas d'influer sur la société, pas d'influer sur l'Église, pas d'influer sur la politique. Laissez tout ça de côté. Ça ne changera aucune vie. Concentrons-nous sur Jésus. Le but de notre témoignage est de mettre les gens en contact de Jésus, Sauveur et Seigneur. Et le meilleur moment pour se rappeler que Jésus est l'ami des pécheurs, et c'est lui qui le dit, c'est quand les gens sont au plus mal. C'est pas quand ils vont bien. C'est pas quand ils sont au mieux. C'est pas quand ils rentrent dans nos cases. C'est quand ils rentrent dans les siennes, quand ils sont au plus mal. Je sais que ce sera loin de faire l'unanimité et qu'à une occasion ou l'autre, cela va même nous attirer une forme d'opposition, y compris dans l'Église. Mais il nous arrive cependant de fâcher nos contemporains pour de mauvaises raisons. On peut dire ou incarner des choses justes et vraies de la plus mauvaise des manières. Mais plus nos vies et nos témoignages seront centrés sur la personne de Jésus, plus nos vies et nos témoignages seront marqués par la grâce, plus le clivage se trouvera là où il doit être. Pas sur des choses secondaires, mais sur l'essentiel Jésus. Jésus, c'est un nom qui divise, mais c'est aussi et surtout un nom qui sauve. Et je finis avec ça ce matin. Je reviens au point de départ de tout cet épisode. Un homme est guéri, libéré d'une terrible épreuve. Et Pierre fait un lien entre le relèvement physique de cet homme et le relèvement spirituel dont toute la foule a besoin. Il dit « Dieu offre un plein pardon même à ceux qui ont rejeté son Fils, son Sauveur et Messie. » Même à eux, le pardon est offert. Et c'est ça qui suscite la colère des opposants de ces religieux. Pierre le souligne d'ailleurs, je trouve, avec un brin d'ironie dont il a le secret, verset 9. On nous interroge aujourd'hui à propos du bienfait à un infirme. On nous demande comment cet homme a été guéri. Il manie un peu de cynisme, là. ce qui arrive ici aux apôtres, ça reflète la trajectoire de Jésus. Il n'a cessé, Jésus, d'accueillir les malportants, de guérir les malades, de libérer les gens qui étaient empêtrés dans des emprises et de proclamer le salut et la délivrance. Et plus Jésus a fait tout cela, plus l'opposition contre lui a grandi, s'est intensifiée, comme les apôtres. Vous savez, les gens n'aiment pas toujours les bonnes nouvelles. Surtout quand les bonnes nouvelles remettent en question tout ce sur quoi ils ont bâti leur vie. Il y a quelques années, je travaillais au Crédit Suisse, aux ressources humaines. C'était mon premier job, j'étais tellement fier. Puis à la fin de mon temps d'essai, moi je me suis dit ça va passer crème. Et mon DRH me convoque, puis il dit on va prolonger le temps d'essai. Et puis je vais t'expliquer un truc. Dans bien des domaines, tu as été incompétent et tu as raté le truc. Mais je vais t'aider. Je vais te donner des clés. Je vais t'aider à mieux travailler, à mieux comprendre les enjeux et tu pourras bien gagner ta vie. Et il l'a fait. Je me suis pris un râteau, hein. Ce n'était pas la bonne nouvelle à laquelle je m'attendais. J'avais construit une compréhension qui était fausse. Mais à l'arrivée, quel soulagement. Même chose il y a 3 ans. Je vais chez mon gentil docteur qui me fait quelques analyses de sang, puis il dit « purée, c'est pas bon ce prédiabète. » Prédiabète, tu sais, enfin à 50 ans, prédiabète, bon. Puis il dit « mais j'ai une bonne nouvelle. On va calmer tout ça. Par contre, toi, il te faut de la discipline. Plus de chocolat entre les repas. Plus 4 cuillères à café de sucre dans le thé. Pas de glace à n'en plus pouvoir. Il faut que tu te disciplines. J'ai une bonne nouvelle, mais... » L'homme infirme de naissance se tient debout devant eux et cela ne pèse pas lourd dans la balance. La bonne nouvelle, ils n'en veulent pas. Ils vont l'étouffer. Il ne faut pas que les gens sachent que Jésus sauve, qu'il change la vie. Nous vivons très loin de Jérusalem. Nous vivons 20 siècles plus tard. Mais la majorité de nos contemporains estiment eux aussi ne pas avoir besoin d'être sauvés de quoi que ce soit, ou en tout cas pas sauvés par Jésus. Entre le consumérisme, l'humanisme à la petite semaine, le développement personnel, une petite dose de spiritualité à la carte, notre civilisation à nous, elle estime pouvoir bien s'en sortir, alors qu'elle va droit dans le mur. Et même nous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes bien souvent happés par l'autosuffisance, arc-boutés sur je ne sais quels principes moraux, éthiques, que nous serions incapables de défendre sérieusement si nous devions le faire. Nous avons du mal à reconnaître que nous sommes vraiment pécheurs, si limités. Nous oublions combien nous avons été créés pour connaître Dieu et pour vivre par lui et pour lui. Et nous recherchons 1000 autres choses autour pour diluer ce qui fait le cœur de notre foi. En Romains 5, verset 8, Paul n'a jamais dit: alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous, à condition qu'après un temps raisonnable, nous soyons le genre de personnes pour lesquelles personne n'aurait jamais à mourir. Il n'a jamais dit ça. Autrement dit, moi, j'ai besoin de la croix et de la bonne nouvelle de l'Évangile chaque jour que Dieu fait, parce que je suis un homme pécheur, comme vous. Peut-être pire que vous, ici ou là. Peut-être moins que vous, ici ou là. Mais pécheur. Et la meilleure réponse à toutes nos réticences, à tous nos clivages, est de faire alors comme Pierre dans ce texte. Placer Jésus au centre de toutes choses pour vivre en son nom. Le pardon qu'il offre est parfait. Il est accompli par sa mort sur la croix. Et il est scellé pour nous par la résurrection. Alors, de tous les points communs que nous avons avec nos prochains non-chrétiens, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, quelle que soit leur faiblesse, leur brisement, notre point commun avec tous nos amis non-chrétiens, le plus grand est celui-ci. Nous avons le même besoin de Jésus. C'est en lui seul que se trouve le sens de notre vie et notre espérance. Jésus accueille, sauve et restaure. C'est clivant, mais c'est ce qu'il fait. Ma proposition pour l'Église évangélique de Meyrin, c'est que nous devons le croire, peut-être le redécouvrir, le vivre concrètement, pratiquement, et le proclamer. Mais dans cet ordre-là, pas dans l'ordre inverse. Pas le dire d'abord, puis le croire ensuite et le vivre enfin. Mais le croire d'abord, chacun, chacune. Le redécouvrir peut-être à la lecture de l'Évangile. Et puis le vivre. Et enfin le proclamer pour que nos paroles soient alignées sur nos actes. Que le Seigneur nous soit en aide. Je sais que le chantier est immense. Amen.
Nous vous invitons maintenant à un temps de scène. Ce n'est pas qu'une commémoration, mais c'est bien la proclamation de la mort de notre Seigneur. C'est déclarer que ce que Jésus-Christ a accompli autrefois avec Pierre et Jean et les apôtres est encore efficace pour tous ceux qui croient en lui aujourd'hui. Amen. C'est le signe de la nouvelle alliance entre Dieu et nous, qui a été établi en Jésus-Christ par sa mort, ce sauveur dont nous avons tous besoin. Alors je vais lire dans Luc 22, les versets 14 à 20. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir ?» Car je vous le déclare, je ne prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette mort à la croix pour nous. Merci parce que c'est dans ton nom qu'on peut vivre, être libéré. Et par cette sainte scène, Seigneur, on veut proclamer publiquement et face à toi notre appartenance à toi. Amen.
Amen.
J'invite trois personnes qui souhaiteraient m'aider à partager la scène avec vous, à s'approcher. Dans la coupe ici du vin, vous pouvez faire signe et Philippe passera auprès de vous. Et puis sur les plateaux, les gobelets avec du jus de raisin sont de couleur violette.
Je te demande de sonder mon cœur pour que je t'écoute, non pas mes connaissances et mes convictions, mais que j'écoute ton Saint-Esprit. Et c'est là, Seigneur, je te demande comme une grâce au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Rappelle pour nous ces symboles de ce nom qui est donné pour nous sauver. Ce pain et ce vin, symbole aussi de cette communion que nous pouvons avoir avec toi, avec nos frères et sœurs à la fois. Et ce pain et du vin, Seigneur, face à notre monde et tout, c'est quelque chose de faible. Et tu nous as dit que tu incarnes aussi cette faiblesse quelque part. Et c'est dans cette faiblesse, en toi, que nous pouvons proclamer que Jésus est vivant et qu'il est le sauveur du monde. Et que c'est le seul nom qui a été donné. Nous te louons et nous te bénissons. Amen.
Amen. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Notre pain aujourd'hui,
notre pain de ce jour. Nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Ceux qui nous ont offensés.
c'est la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je dois vous informer du décès ce 28 février dernier au matin de Christiane Waltert. Elle était entre autres la grand-maman de Telmo. Et nous aurons ici même mardi matin à 10h un service donc, qui se tiendra ici à 10h. Et j'aimerais simplement encore prier pour la famille. Merci de nous avoir rappelé qu'au cœur de notre foi, il y a la résurrection. Elle est concrète et plusieurs bien-aimés y goûtent en ce moment même. Mais il y a aussi la peine, et j'aimerais te demander d'accorder ta consolation à Hélène, à Joël, leurs enfants. Merci Seigneur de nous permettre de dire l'espérance qui est la nôtre, mardi matin, qui est très concrète en ce moment même pour Christiane. Dans le nom de Jésus, amen.
Alors, on arrive au terme du culte, puis il y a toujours un moment de bénédiction. Et puis, j'ai réfléchi et j'ai un passage qui m'est venu en tête. Il est dans l'Ancien Testament. Et en fait, c'est le Seigneur qui parle à Moïse et qui dit à Moïse de dire à Aaron et à ses fils des paroles qui vont être prononcées pour bénir les Israélites. Mais je trouve qu'elles sont d'actualité. Ça se trouve dans Nombre 6, versets 24 à 27. Je vous propose de vous lever. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance. Et là, le Seigneur rajoute à Moïse et il dit, « Lorsque les prêtres prononceront ainsi mon nom, pour bénir les Israélites, je leur accorderai moi-même ma bénédiction. Alors que vous puissiez aussi, durant votre semaine, prononcer ce nom. Amen. Je vous laisse vous asseoir. Il y a quelques annonces. Premièrement, un repas qui suit ce culte. Donc, ne partez pas. Le groupe du caté vous serve des cafés aujourd'hui. Je crois qu'ils ont beaucoup de plaisir à le faire, alors, même si vous ne buvez pas de café, allez-y. Et puis, j'invite Thierry à venir. Il a aussi une annonce à vous faire.
Merci, voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est juste pour vous rappeler le cours Alpha. Je viens de réaliser que j'ai oublié mes notes derrière. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Ça ira. Le cours Alpha. 12 soirées, les dates sont sur le flyer, donc je ne vais pas vous les dire. Il y aura des flyers à la sortie, servez-vous. Si vous n'aimez pas le papier, il n'y a pas de problème, on peut vous envoyer quelque chose de digital. Enfin voilà, qu'il n'y ait aucune excuse pour participer et inviter vos amis, vos voisins, vos collègues. Je vous rappelle aussi que mardi soir, ce mardi à 20h, nous aurons une séance d'information. Donc si vous voulez participer ou aider à faire que ça ait lieu, en fait, eh ben, venez. Si vous avez envie de savoir qu'est-ce que c'est que ce cours Alpha Live, venez à 20h ici. Et puis voilà, vous rappelez aussi que si nous n'invitons pas des gens, il n'y aura personne, ce qui serait dommage. C'est un outil qui marche bien, qui existe depuis de nombreuses années dans le monde entier. Et qui est utilisé par beaucoup de personnes. Alors, il a été un petit peu modernisé. Maintenant, il y a des vidéos. Voilà. C'est vraiment un chouette outil. Et ça marche. Mais il faut inviter des gens. Voilà, on n'a pas envie de se retrouver entre nous. La plupart d'entre nous, on connaît déjà les bases de la foi et c'est très bien. Mais il faut vraiment que nous puissions inviter nos voisins, nos amis. Ça demande un petit peu de courage. Pour moi aussi, hein, des fois on pense que je suis un professionnel de l'évangélisation. Pas du tout. Non, vraiment pas. Donc voilà, ayons le courage de se dire, bah, Seigneur, à qui est-ce que je pourrais parler de ça? Et puis allons-y, invitons ces gens qui sont là autour de nous et qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. C'est vraiment un outil qui est facile. Hein. On ne parle pas d'évangélisation de rue, on ne doit pas aller vers des gens qu'on ne connaît pas. C'est un repas, c'est un thème pour la soirée et c'est une discussion ouverte. Les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est partagé, ils ont le droit de le dire. Voilà, on a juste envie de parler des bases de la foi avec ceux qui sont d'accord, ceux qui ne le sont pas. Et puis voilà, on chemine ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait d'accord d'entrer là-dedans. On les force à rien, on passe un bon moment ensemble et on discute de ce que nous croyons. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez juste envie de participer, de réviser les bases de la foi, voilà, c'est pas que pour les non-chrétiens. Hein. Donc n'hésitez pas aussi à vous inscrire et à venir vers soit Claude, soit Zena, soit moi-même, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Merci d'avance.
Alors, il reste quelques annonces qui vont défiler. Voilà. Et je vous souhaite un bon dimanche.
Thank you.